Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, il est juge et parti dans l'émission, lui seul peut nous donner des avertissements. C'est notre régisseur Julien Mathieu, salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
Il a suivi la première semaine de Roland Garros avec une grande attention. Nous en débattrons avec lui dans quelques minutes. C'est Aliou Alassane. Salut Aliou.
Salut à tous.
Pour parler des finales de NBA, nous aurons également Elliot avec nous par téléphone. Nos invités du jour, nous allons dévaler la pente de BMX avec eux au sens figuré bien sûr. On accueille Julien Sastre, responsable des équipes de France de BMX. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Et Arthur Pilar qui a donc troqué son casque de BMX pour le casque radio. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour à vous.
Voici les présentations faites, on va écouter ensemble le sommaire. Vous saurez tout de la pratique du BMX dans les Yvelines et au-delà avec nos invités Julien Sastre et Arthur Pilar, avec qui nous évoquerons la grande compétition de BMX qui approche. Les 5e et 6e manches de la Coupe du Monde de BMX se dérouleront les samedis 8 et 18 et dimanche 9 juin au Vélodrome de Saint-Quentin. On parlera de tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Nous parlerons avant de tennis. On commence la deuxième semaine de Roland-Garros, le tournoi de terre battue, où seul le mot battu correspond aux Françaises et aux Français du tournoi. Je ne vous en dis pas plus, avec Aliou, nous reviendrons sur le bilan de la première semaine. Nous sommes en pleine finale de NBA Outre-Atlantique, l'occasion de faire le point sur les deux équipes en lice, les Warriors de Golden State et les Raptors de Toronto. Nous serons avec notre envoyé spécial Elliot tout à l'heure au téléphone. Enfin, petit mot de football, l'hégémonie espagnole a pris fin ce samedi en Ligue des Champions. Place maintenant au football spectacle anglais qui a vu le sacre de Liverpool au détriment des Spurs de Tottenham. Allez, programme riche, donc les débats sont ouverts.
Hé, hey, Toshiba, là-bas, oh! Tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye, là, pour jouer avec tes pieds, connard?
Vous l'aurez reconnu dans le jingle, la voix d'Eric Cantona, ancienne légende de Manchester United, qui a dû apprécier... Eh bien, toutes ces finales britannico-anglaises qui se sont déroulées, Ligue Europa avec la victoire de Chelsea, qui a balayé Arsenal 4-1 avec un but d'Olivier Giroud notamment. Et samedi, la compétition Rennes, la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, où là encore, match 100% anglais, Liverpool, qui s'est imposé. Un but à zéro, non, je ne me souviens plus du score tellement le match était ennuyeux. Voilà, 2-0 contre Tottenham. Voilà donc le football anglais qui est sur le toit du monde. Ça vous plaît comme ça, messieurs, enfin, les choses là qui changent, le football anglais qui tâtonnait un peu ces derniers temps. Et puis on a eu le Real Madrid qui a remporté 4 des dernières...
Les 3 dernières, 4 des 5 dernières.
4 Ligues des Champions sur les 5 dernières années, en alternance avec Barcelone, qui a aussi remporté beaucoup sur les 10 dernières années. Donc je crois qu'à eux deux, ils doivent faire un truc du genre 8 sur 10.
Bah, eux deux, ils sont à 4 et 4, donc à 8.
Ouais, sur les.
À 8
sur les.
Depuis
jeux.
2006.
D'accord.
Donc sur 13.
Donc c'est un monopole espagnol de la compétition. Et là, il vient depuis que les. Clubs anglais se sont largement enrichis, notamment grâce à l'explosion des droits TV. Eh bien, on a eu le droit, durant cette compétition, à du football suspense, du football de rêve en tout cas, du football qui a...
Du spectacle.
Voilà, qui a soulevé les foules et qui nous a offert beaucoup d'émotions durant toute la compétition. Alors la finale est vraiment un très mauvais exemple et qui n'illustre pas du tout la manière dont la compétition s'est déroulée. Mais en tout cas, voilà, sur l'ensemble de la compétition, Liverpool a été une très belle équipe, une équipe joueuse et qui était portée par notamment un trio d'attaquants ultra efficace.
Ouais, puis moi j'ai envie de féliciter aussi Jurgen Klopp parce que voilà, deux finales de suite en Ligue des Champions, ils en avaient fait une aussi en Ligue Europa il y a 3 ans si je me trompe pas. Voilà, c'est un jeu magnifique ce que nous propose Liverpool depuis que Klopp est arrivé au club. Donc voilà, je suis supporter de Liverpool. Alors c'est vrai que le match n'était pas très beau, mais je pense que Klopp s'est adapté aussi au fait que c'était une finale et il s'est dit là ça fait trop de finales perdues, il y a un moment on l'a fait à la Deschamps quoi. En gros, peu importe, c'est le résultat qui compte. Donc la beauté du jeu n'était pas au rendez-vous, mais pour un supporter de Liverpool, en tout cas c'est magnifique. Pour quelqu'un de neutre, peut-être que c'était un peu moins bien, mais il y a eu tellement de matchs cette année, ça va, on peut se permettre un match un peu en dessous.
Alors c'est vrai que tu as raison de souligner la performance de Jurgen Klopp, qui est un entraîneur assez pragmatique, hein, il n'a pas de vision. Idéologique du jeu à pratiquer sur le terrain. Lui, ce qui compte, c'est d'être efficace et puis de marquer des buts tout simplement.
Mais il veut que ce soit beau. Hein. Il veut quand même la beauté du jeu. Je l'ai déjà entendu dire plusieurs fois. Bah, par exemple, quand ils ont perdu contre le Barça au match aller, donc 3-0, il a dit « Je peux rien dire parce que mon équipe a bien joué. » Donc, je suis quand même fier de ce que j'ai vu. On a perdu, mais je suis fier de ce que j'ai vu.
Oui, bon, c'est peut-être aussi une manière de détourner, d'assumer la défaite sans parler concrètement de l'aspect tactique qui est inhérent à ce sport.
Ouais, bah moi j'ai regardé la finale parce que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, donc j'ai jeté un coup d'œil.
Ouais, et ça a été provisionnel quoi.
Ouais, c'est très très ennuyant, donc forcément...
Bah après je pense que le but à la première minute tue le match.
Ouais, le but, mais non, au contraire, moi je pensais que le but allait ouvrir le match.
Mais Tottenham n'a pas réagi.
C'est ça le problème, parce que normalement, quand t'encaisses un but comme ça, et ben tu t'ouvres les espaces et tu te dis, je suis en finale, j'ai plus rien à perdre et je joue. Malheureusement, c'était d'un ennui le plus total. Et on se doit aujourd'hui, forcément, d'aller dans d'autres analyses. Parler de Jurgen Klopp moi je voulais en revenir sur aujourd'hui. Liverpool prouve quand même qu'on n'a pas besoin de mettre des millions et des millions dans des joueurs pour aller chercher la compétition la plus prestigieuse en Europe. La preuve, aujourd'hui avec son trio d'attaque, aujourd'hui Jurgen Klopp il va chercher des joueurs parfois qui sont totalement décriés. On l'a vu avec le remplaçant qui est rentré, il jouait je pense au LOSC. Et le LOSC l'a vraiment bradé. Au final, c'est lui en demi-finale qui libère Liverpool et en finale aussi qui met le but salvateur. Donc ouais, je pense que c'est une grosse, grosse leçon de football que à la fois Jurgen Klopp et Liverpool, tout au long de cette année, à l'échelle de l'Europe.
Ouais, bon, alors, l'argument économique, en même temps, les clubs anglais n'ont pas besoin d'argent. En ce moment, enfin, ils sont en capacité de garder leurs joueurs, donc ils n'ont pas forcément besoin de recruter. Et effectivement, enfin, là où tu as raison, c'est qu'il y a des automatismes dans ce club. Enfin, le trio Mané, Salah, Firmino, ça.
Bah justement, et ce trio-là, franchement, il y a 3-4 ans, personne n'aurait imaginé que ça puisse être l'un des plus grands trios d'attaque au monde.
Ah ouais, ça c'est vrai. Mais et aussi durant la finale aussi. Moi j'aurais aimé aussi qu'on souligne, certes c'est un très très gros trio d'attaquants, mais il y a une forme d'égoïsme de Salah pendant au moins jusqu'à la 60-75e minute de jeu. Il veut impérativement marquer son doublé quoi. Je pense qu'il doit être immobilisé par le ballon d'or ou quoi que ce soit, mais j'ai vu, après je ne sais pas si on a regardé le match avec les mêmes yeux, mais moi j'ai vu qu'il était très 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 égoïste.
On va demander l'avis à Arthur. Tu as regardé le match, non ?
J'ai pas du tout regardé le match.
Enfin, Liverpool, ça t'évoque quoi en tant que champion d'Europe ? C'est normal.
Ça.
Dernières saisons, les prestations qu'ils font.
Ils ont déjà failli pas passer les poules.
Ouais.
Donc les voir en finale, c'était un peu choquant pour moi, mais après ils ont très bien joué pendant toute la compétition, donc.
C'est vrai que les supporters parisiens pourront dire « on a battu le champion d'Europe ». Parce qu'ils se sont rencontrés en face des poules.
Ouais, Liverpool, franchement, moi, je me souviens à peine du match hein, de PSG-Liverpool. Donc, je sais pas si on peut vraiment s'en vanter.
Oh, victoire...
C'était quoi
Victoire maîtrisée. Hein, le retour où ils devaient absolument gagner. Ils gagnent quelque chose comme 3-2, je crois, au retour.
3-2, c'est pas le match aller ? Tu vois, on s'en souvient pas.
Ça, ouais. Le match aller, c'était 2-1, non ?
Ouais, il me semble que c'était un 2-1, 3-2 ou 3-2, 2-1.
Un truc du genre, je me souviens plus, mais je sais que le match retour est. Ouais, Paris, ils ont.
Bon, en tout cas, c'est marrant, quand on parle de Paris, on parle des matchs de poule.
Ouais, voilà, vous voyez qu'il y a des. Vous l'avez dit, hein, il est jugé parti dans l'émission, et là, ça se voit un peu. Messieurs, on va clôturer cette page football et même cette page football masculin pour l'ensemble de la saison sur Marmite FM, puisque la Coupe du Monde féminine de football commence dans quelques jours et nous allons très largement en parler dans ces studios. On va dire quelques mots de basket, puisque en ce moment se déroulent les finales de NBA. Et vous le savez, donc la meilleure équipe de la conférence Est rencontre la meilleure équipe de la conférence Ouest. Et c'est un duel Warriors contre les Raptors de Toronto. C'est leur première finale depuis bien longtemps. Alors que les Warriors sont habitués à aller en finale. Alors c'est leur quatrième finale. Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais, leur cinquième finale en 5 ans. Donc bon, c'est la meilleure équipe, hein, et on va avoir avec nous au téléphone notre envoyé spécial Elliot, est-ce que tu nous entends?
Ouais, je vous entends.
Voilà, donc Elliot qui est notre envoyé spécial et qui n'est pas présent aujourd'hui car il est en ce moment même à Toronto, il va faire le voyage à Auckland bientôt. C'est ça, Elliot?
Non, pas encore.
Ouais, bon, ok, t'es coincé au boulot, c'est bon, tu peux le dire.
Ouais, j'ai pas encore de jours pour pouvoir le faire, j'ai pas le temps. Non, mais ouais, je vais pouvoir vous parler de la finale et des deux équipes qui s'affrontent en ce moment.
Donc, ouais, est-ce que tu peux nous présenter d'abord ces deux équipes-là, les Warriors et puis qui dominent depuis des années la conférence Ouest, et puis les Raptors, l'invité surprise un peu de ces finales de NBA.
On va commencer par les Raptors parce que c'est les Golden State, on connaît un petit peu. Donc les Raptors, c'est un peu l'ancien outsider de LeBron. Ça faisait quelques années qu'ils se cassaient les dents en playoff à l'Est sur les cases. Donc LeBron parti, ils ont réussi à directement à se qualifier dès la première année en finale, mais ça n'a pas été tout repos. Donc ils ont eu un parcours beaucoup plus chaotique que Golden State. Ils ont eu du mal déjà à passer le Philadelphie. Donc, ils ont mis 7 matchs. C'était super série. Après, ils sont passés sur Milwaukee. Milwaukee qui a gagné les deux premiers matchs. Et puis ensuite, en mode avec Kawhi qui s'est mis en mode rouleau compresseur et a explosé complètement Milwaukee, et après avoir pris à 2-0, ils leur ont mis un petit 4-0.
Ouais, on rappelle que Kawhi Leonard, sa première saison du côté de Toronto, il avait été échangé contre DeMar DeRozan, ancienne star des Raptors, et qui venait donc des Spurs de San Antonio. Et il avait déjà gagné d'ailleurs une finale NBA, Leonard.
Oui, et MVP des finales aussi.
C'est ça.
Donc c'est pas un novice. Et ensuite, donc, de ce côté, on a Golden State qui s'est régalé en playoff à l'Ouest et qui n'a pas eu beaucoup de mal à se qualifier, même si Portland a fait un peu de résistance. C'était à Houston aussi. On a cru à un moment que Houston avait les chances de passer, mais bon, ça s'est pas fait. Et on voit que même sans Durant, là, l'équipe tourne très bien. Green qui a pris le relais un petit peu à la création et au scoring de ce que Durant faisait. Et on a une belle renaissance. Cette nuit, on a vu un DeMarcus Cousins assez rayonnant en attaque, avec une petite dizaine de points, quelques rebonds, quelques passes. C'est assez sympa et on voit qu'ils sont armés à tout niveau.
Ouais, je me demande s'il finit pas en double-double DeMarcus Cousins qui a joué... une grosse vingtaine de minutes, enfin peut-être même 25 minutes lors de ce match 2, donc les Warriors qui ont égalisé
sur le parquet de Toronto. Donc, ils reprennent l'avantage du terrain puisqu'ils gagnent à l'extérieur. Donc, ça veut dire que les Warriors qui vont accueillir le prochain match dans leur salle, eh bien, vont pouvoir être en mesure de concrétiser cet avantage et de reprendre l'avantage. Enfin, et de mener au score, puisqu'on le rappelle, la première équipe arrivée à 4 victoires remporte ses finales de NBA.
C'est ça, exactement. Je sais pas à combien de temps durera cette série, si ça va être aussi serré qu'avec les Cavs, parce qu'il n'y a pas la résistance de LeBron, mais on verra. On dirait qu'il commence un peu à s'essouffler. Donc Kawhi qui a terminé le match hier un petit peu essoufflé, tout tournait vraiment autour de l'ISO, de l'isolation, et Kawhi qui prenait ses shoots et allait sur la ligne des lancers francs, c'est assez stéréotypé hier, et on voit qu'il commence à avoir un peu de difficulté à créer en attaque. Bon, la défense elle est toujours là, ils ont pris un parti pris, ils laissent vraiment les plus mauvais shooters de l'équipe tirer. Bon, c'est un mal pour un bien. Si les mauvais shooters de Golden State, qui sont pas si mauvais que ça à mettre, ça peut faire comme hier soir une défaite, ou ça peut faire comme jeudi soir une victoire. Donc c'est vraiment une tactique à double tranchant. Donc s'ils mettent pas, ils ont une chance de gagner. S'ils mettent pas, ils ont une chance de gagner. Et s'ils mettent, bah c'est fini, bye bye pour les Raptors. À voir ce que ça donne sur le reste de la série, et s'ils arrivent à tenir à Golden State. On va voir si Drake fait autant le show la semaine prochaine. On verra. Ça peut être sympa.
Drake, qui, on le rappelle, d'un point de vue sportif, est le chat noir. Il porte la poisse à toutes les personnes avec qui il pose en photo.
Ouais, donc hier soir, le match de UFC en est la preuve. Le favori... C'est fait sortir par l'outsider, je connais plus les noms, mais pour le titre un des titres de WBC.
Ouais, tu parles de boxe là.
Ouais.
Ouais, Anthony Joshua qui s'est fait balayer effectivement par un no name qui du coup s'est fait un nom, un Mexicain qui pour la première fois devient champion du monde poids lourd. Est-ce que tu as, malgré la blessure de Klay Thompson, qui est un vrai coup dur du côté des Warriors, est-ce que tu penses que les jeux restent ouverts là pour les prochains matchs, ou alors est-ce que tu penses que non, enfin là avec le match qu'ils ont livré, Golden State va quoi qu'il arrive être champion NBA?
Non, parce que ça ouvre une petite opportunité pour Toronto. Comme on l'a vu sur les deux premiers matchs, c'est presque Thompson qui met le plus de points à côté Golden State. Curry un peu en deçà hier soir. Donc à voir. Et ça leur fait surtout une arme de moins et un défenseur de moins. Après, Klay Thompson a dit qu'il allait tout faire pour jouer et que c'était un peu improbable qu'il rate un match. Mais bon, après, c'est que de la com' ça. Ça ouvre vraiment des opportunités parce que c'était le chien de garde de Steph Curry. Donc il s'occupait entre autres de Kawhi et de Laurie. Donc on verra si ça peut ouvrir un peu d'espace pour ces deux-là, sachant que le remplaçant c'est soit Quinn Cook, qui n'est pas connu pour sa défense, soit ils vont faire starter Iguodala et affaiblir du coup la deuxième équipe. Donc je sais pas.
Et on le rappelle, le meilleur joueur de l'équipe, Kevin Durant, est toujours blessé, donc c'est assez incroyable ce qu'on voit là du côté des parquets de la NBA.
Ils vont peut-être être champions sans avoir Durant sur le terrain.
Ouais.
Ça peut être intéressant, ça peut justement le pousser à partir et ça va pas faire taire les critiques à son égard.
Ok, bah merci Elliot, on va se retrouver donc très bientôt pour voir si les Warriors seront champions NBA dès la semaine prochaine. On va suivre ça de près avec toi.
Ou si ça dure encore une petite dizaine de jours.
Voilà. Merci Elliot, on te dit à très bientôt.
À très bientôt, bonne soirée.
Voilà, messieurs, pour la NBA, vous avez un petit favori, vous suivez ça de loin, voire de très loin ? Arthur ?
Moi, je suis ça de vraiment très loin. Je suis pas Toronto, je connais pas spécialement, je connais que Golden State. Donc, je mettrai un petit billet sur Golden State.
Julien Sastre, ouais. Pareil.
Et moi, au risque de vous décevoir pour l'anecdote, hein, je ne veux pas passer pour le vieux, mais moi, je me suis arrêté à Michael Jordan et aux Chicago Bulls. Donc, je ne peux pas trop vous aider pour ce week-end.
Ouais, il n'y a pas eu d'aussi beaux matchs depuis, à vrai dire. Aliou ?
Je suis ça de très, 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 très loin. Ouais. Franchement, le basket, la NBA est très loin. Ouais.
Tu t'avancerais un pronostic, Julien, en régie ?
Non, moi c'est pareil, c'est pareil qu'à Lyon. C'est de très loin. Je vous écoute en fait.
Bon, eh bien, on va se concentrer sur un événement qui est plus proche de nos studios, à quelques kilomètres, hein, Porte d'Auteuil, où se déroule le tournoi de Roland-Garros. Et après une semaine de compétition, on a déjà des enseignements à tirer, à Lyon.
Ouais. Bon, je fais une tête parce que bon, on le voit pas forcément, mais je tire la tronche parce que on a plus de Français malheureusement à Roland Garros.
Quelle surprise.
On est un peu habitué tous les ans à entendre cette chanson là dès le début de la deuxième semaine. Mais cette année, franchement, on est nul partout, on est nul à l'organisation avec toutes les polémiques qu'il y a eu. On est nul, les joueurs perdent des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Et on est nul aussi au niveau du public. Franchement, Gaël Monfils qui vient de perdre 6-4, 6-4, 6-2. Tim était trop fort, c'est vrai, mais le public n'a pas joué sa partition non plus. Et aujourd'hui...
Ouais, peut-être que le public en a marre aussi au bout d'un moment.
Non, le public, c'est juste un public qui n'est pas du tout connaisseur. Mmh. C'est tout, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Mais le public de Roland-Garros, c'est avant tout spectateur, avant d'être supporter.
Oui.
Ça a toujours été comme ça.
Ça dépend des cours. Quand on est sur le central, quand on est sur le châtrier, comme Lucas Pouille l'a dit, il préfère boire des coupes de champagne que de regarder un match de tennis. C'est plutôt des spectateurs bobos,
ouais,
voilà,
c'est ça, c'est
qui sont invités. Et puis voilà. Quand on est sur le Langlen, sur le Simon Mathieu ou sur d'autres cours comme le numéro 1 par exemple, là on a vraiment des fans et qui viennent supporter. À partir de la deuxième semaine, le public n'a pas le droit de lâcher mon fils comme il l'a lâché aujourd'hui. Le public n'a pas joué sa partition. À aucun moment donné, Dominic Thiem, certes, il était trop fort, oui, mais non, le public n'a pas le droit de le lâcher comme ça. 6-4, 6-4, 6-2, j'ai plus de mots. Et n'en parlons pas de Benoît Paire qui, lui, s'est saboté tout seul. Il aurait dû perdre ce match en 3-7. En 4-7, mais il ne peut pas perdre le 5e set. Il break Nishikori dans le 5e set. Il sert pour le match. Il commet une double faute. Il a le public derrière lui. Il s'aborde tout seul. Il ne peut pas perdre. Donc oui, cette année, partout, on regarde les Français, que ce soit au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si on aura le temps.
Alors qu'est-ce que tu entends par problème d'organisation, justement ?
L'organisation, c'est déjà, il y a des matchs qui ne doivent pas se... Au niveau des terrains, je prends l'exemple du match Dimitrov contre Wawrinka. C'est une affiche au troisième tour. Dans n'importe quel stade au monde, que ce soit à l'US Open, à Wimbledon ou à Melbourne, on les fait jouer sur le central. On n'a pas de meilleure affiche, quid d'avoir un Nadal ou un Federer, mais on n'a pas de meilleure affiche. On les fait jouer sur le Langlen. On sait tous que le match déjà ne va pas se finir. Il n'a même pas eu lieu sur le Langlen. Ils ont été mis au final sur le court numéro 1. Pagaille totale dans les travées de Roland-Garros. Ça a eu une bousculade comme pas possible, sachant qu'on sait très bien que tout est étroit. L'organisation n'a pas communiqué aux spectateurs qui ont acheté leur billet, la majorité d'entre eux, sur le Langlen pour regarder ce match-là. Se sont retrouvés piégés. Le cours numéro 1, il était blindé parce que les gens qui avaient acheté les places à 20 euros pour les cours annexes, ils se sont dit c'est la place la plus rentable de l'année, et je suis bien d'accord avec eux. Et ils ne voulaient absolument pas quitter les sièges. Donc on s'est retrouvé devant le cours numéro 1 avec un embouteillage de personnes. Plus personne ne pouvait sortir, plus personne ne pouvait rentrer. On est à Roland-Garros quand même. Ça ne peut jamais se passer.
Et comment t'expliques ça ?
Ça ne peut pas se passer au All England Club, ça ne peut pas se passer à l'US Open, ni à Melbourne. Ça peut se passer qu'à Roland-Garros. Encore une fois, Nick Kyrgios, il y a deux semaines, il dit un truc, tout le monde lui tombe dessus. Mais tous les jours, l'organisation lui donne raison. Il dit que Roland-Garros, c'est de la merde. Je ne vais pas y aller jusque-là. Et ce qui s'est passé aussi avec Dominic Thiem et Serena Williams. Serena Williams perd un match. qui veut en finir avec la conférence de presse. Et directement, elle demande à passer directement en conférence de presse. Il y a Dominic Thiem. La WTA lui dit « Vas-y, viens ». Dominic Thiem est dans la salle principale et on sait tous que c'est tout le temps la priorité au vainqueur. On sait tous que c'est tout le temps la priorité au vainqueur, mais on demande à Dominic Thiem de céder sa place pour que
à Serena,
qui au final, elle est juste députée d'avoir perdu. Elle a répondu à deux questions, elle est partie.
Dominic. Alors ça, c'est propre à Roland Garros ou c'est l'ATP qui gère
Non, c'est la WTA et l'ITF qui gèrent par rapport à ça et ils se mettent en accord avec le tournoi. Sauf que la priorité pour les conférences de presse a toujours été au vainqueur. En l'occurrence, Dominic Thiem, il était bien installé. Et il y a plusieurs salles, en fait. Mais la salle principale est réservée aux stars. Et donc, Serena Williams qui perd, elle va voir la WTA en disant « Moi, j'ai envie de passer vite pour que je rentre. » On voit qu'il n'y a plus de salle. On connaît son tempérament. Elle ne va pas attendre. On demande à Dominic Thiem de sortir. Thiem, il dit « Mais c'est une blague. » Après, ensuite,
c'est
il dit…
très moyen, ça.
Il a une phrase qui dit « Mais je ne suis pas un junior. » Il a raison. Il est tête de série numéro 4 quand même. C'est un favori. Et après, le lendemain, ça fait polémique. On lui demande, on dit « Ouais, mais j'ai pas compris. » Il parle d'un problème de personnalité, oui, mais c'est aussi un problème d'organisation.
Bon, quel genre d'amateur de tennis êtes-vous, Arthur Pilar, Julien Sastre? Pareil, dès qu'il y a Roland Garros, vous êtes devant la télé, vous regardez avec espoir les performances des Françaises et des Français ou alors vous vous contentez de regarder les brèves dans l'équipe qui annonce sur le site internet en rouge, mon fils éliminé, Benoît Paire éliminé, Caroline Garcia éliminé.
Moi, je suis le tennis de très près. J'adore ce sport, donc je suis de très près, je regarde tous les tournois presque. Du coup, surtout Roland Garros comme il est en France. Mais non, sinon je suis vraiment beaucoup le tennis.
Alors comment vous voyez l'issue là, de ce tournoi où... Finalement, dans le tableau masculin, on a quand même pas beaucoup de surprises. Hein. Les têtes de série sont toujours là en deuxième semaine. C'est assez rare quand même pour le souligner. Et puis, tableau féminin, c'est toujours ouvert. Et puis, on l'avait dit avec Yalou la semaine dernière, qu'on s'orientait vers une compétition très ouverte. Là, on n'a pas encore en tête le nom de la future gagnante, tellement c'est peu évident.
Ouais, chez les hommes, les favoris sont encore présents, donc ça va donner une bonne deuxième semaine. Ça va être vraiment, il va y avoir des gros matchs comme celui de Tsitsipas Wawrinka hier, qui était vraiment vraiment joli à regarder. Sinon, chez les filles, ça va être un tableau très ouvert avec des jeunes joueuses qui arrivent là, mais bon, je pense que Alep va faire le job.
Elle a vraiment une autoroute maintenant jusqu'en finale.
Ouais, là, elle est vraiment large. Et après, j'aimerais bien voir la petite Anisimova en finale, la jeune américaine.
Ah, justement, on allait en parler. Anisimova, la star annoncée, même pas 18 ans. Elle est américaine. Vous l'avez déjà vue jouer C'est quoi enfin, elle va confirmer, selon vous, toutes les attentes que la presse américaine place sur elle. C'est la future Serena.
C'est un grand mot de dire la future Serena. Après, des futures Serena, on en entend tout le temps. Elle joue très bien. Elle joue très, très bien. Et elle fait le tournoi de sa carrière. Après, il faudra aller confirmer. On est sur terre battue. Si on avait été sur dur, oui, mais on est sur terre battue. La saison sur terre battue, elle se finit à Roland-Garros. Donc, non, on ne peut pas bien jauger aujourd'hui. Elle fait un tournoi exceptionnel et on verra jusqu'où elle ira. Mais sur le tableau féminin, c'est sûr qu'il n'y a plus les deux têtes de série principales, plus d'Osaka, plus de Pliskova. Les deux ont perdu bêtement. Plus de Caroline Garcia non plus, qui je ne comprends toujours pas comment elle a perdu. Elle ne doit pas perdre. Elle s'embarque dans un troisième set. Elle a double break. Je ne comprends pas.
Au premier tour en plus, je crois, non ?
Au deuxième tour.
Ouais, au deuxième tour.
Elle perd au deuxième tour, donc ensuite, non mais c'est du n'importe quoi. Et puis voilà, donc moi je vois bien Sloane Stephens qui quand même a sorti Muguruza.
L'américaine,
elle a fait finale l'année dernière. Mmh. Elle est sur l'autre partie de tableau. Il y a Alep et il y a une Madison Keys aussi qui tout à l'heure a joué. C'était bien, c'était très très bien. Madison Keys qui monte en puissance. Donc voilà les favorites aujourd'hui dans le tableau féminin.
Julien Sastre, je vous pose la même question. Vous avez des joueurs que vous aimez regarder durant le tournoi de Roland-Garros?
Ouais, le tennis, c'est un sport qui m'attire. J'en ai fait moi-même plus jeune. Donc forcément, oui, je suis forcément intéressé par les tournois comme Roland-Garros. Après, je vous avoue que oui, forcément aussi déçu des perfs des Français et des Françaises sur ce genre de tournoi du Grand Chelem. Et je vous avoue, je prends davantage de plaisir à regarder des tournois comme la Coupe Davis, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Bon, alors je vais faire un peu de chauvinisme, mais oui, parce que les Français en général réussissent beaucoup mieux que les tournois en indive. Et surtout, c'est cette espèce d'esprit d'équipe qui se dégage de nos équipes tricolores qui moi, me fascine
Fascine
et
beaucoup plus.
m'intéresse.
Ouais, c'est vrai.
Bon, la Coupe Davis, d'ailleurs, elle est réformée ou pas
Elle a
là?
été réformée, fini les 5-7,
Ouais.
fini les tournois, les matchs aller-retour, aller chez l'autre, on va tous se réunir, c'est du n'importe quoi. Ouais, on va tous se réunir en Espagne pour jouer. Même moi, j'ai pas compris la réforme. Enfin, la Coupe Davis est morte, point.
Bon, bonne façon pour.
J'allais vous poser la question d'ailleurs.
Elle est morte, la Coupe Davis.
Bon,
Mais en Fed Cup, on est en finale. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse gagner la finale de la Fed Cup.
Ben, Julien Sastre, après vos vieux souvenirs de NBA, voilà, la Coupe Davis.
Désolé.
Des souvenirs en tennis.
J'ai quand même du coup un truc à vous demander.
Ouais.
C'est quoi les pronostics, enfin, c'est quoi votre avis, surtout pour les deux gros matchs qui auront lieu demain chez les hommes, c'est-à-dire Wawrinka contre Federer et puis Nishikori contre Nadal.
Nishikori Nadal, je ne sais pas si on peut parler de gros matchs. Nishikori l'a déjà battu sur terre battue, certes, l'a déjà battu dans d'autres surfaces,
Mais c'est pas l'adversaire qui peut faire peur à Nadal à Roland-Garros.
sur son tableau, si, sur son tableau, quart de finale, c'était prédilection, quart de finale, Nadal, Nishikori. Donc c'est le plus gros adversaire qu'il aurait pu rencontrer au stade des quarts de finale.
Ouais.
Après, ensuite, il faudrait vraiment tout un contexte pour que. Nishikori, physiquement, il est bien. Donc, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça serait une énorme surprise, certes, oui. Mais Nadal part largement favori. Par contre, le Wawrinka Federer, c'est un casse-tête à la fois pour les deux joueurs, mais à la fois aussi pour les organisateurs. Car il faudra mettre l'un des deux, un Nadal ou un Federer, sur le Langlen demain. Et moi, je vois bien Nadal aller sur le Langlen et laisser priorité à Federer sur le central, sachant que.
Il joue au même moment, c'est ça?
En fait, les quarts de finale, c'est il y en a un sur Langlen, un sur le central.
D'accord.
C'est 14h et 15h15, donc
c'est
ça se chevauche.
C'est tout le temps comme ça.
Mmh.
Et donc, du coup, vu que toutes les stars doivent passer au moins une fois sur le Langlen, ils sont déjà passés sur le Langlen au moins une fois. Donc, moi, je vois bien la team Federer comme la team Nadal aller voir Guy Forget en lui disant, écoute. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis Nadal, on soit vainqueur, quart de finale, tu me fais jouer sur l'Anglen. Et l'autre qui dit, je suis Roger
Mais
Federer, 4 ans que je suis pas venu ici.
Qu'est-ce que ça change pour le joueur?
Le central est beaucoup plus grand déjà. Et Nadal préfère largement, déjà en termes d'ego, jouer sur le central, c'est en termes d'ego. Et Nadal préfère jouer sur le central, c'est là où il a beaucoup plus de repères et là où il a beaucoup plus aussi de marge derrière, beaucoup plus de recul. On sait que Nadal aime jouer derrière sa ligne de fond de court, au moins 3-4 mètres derrière. Sur le Langlais, il n'y a pas trop de recul. La proximité avec le public. Et puis, Nadal n'aime pas trop ça, cette proximité avec le public. On se souvient que contre Söderling en 2009, c'est sur le Langlen qu'il avait
Ah ouais.
perdu. Parce que derrière, Söderling aussi avait tout un public derrière lui pour faire tomber El Matador.
Bon, on reste toujours sur l'annonce du sacre annoncé de Rafael Nadal là pour ce tournoi.
Il y a un Djokovic qui, quand même, c'est le joueur qui a passé le moins de temps sur le court. Il devrait jouer Fonini ou Zverev qui sont en train de
Ouais.
la jouer en ce moment.
Faudra les sortir quand même, hein.
Ouais, le Zverev, il fait pas très très terrible. En plus, il est maudit en grand chelem. Mais ça va être un gros 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 match, gros
Ouais.
défi pour Djoko aussi qui joue Zverev. Vaut mieux pour lui qu'il joue Fonini qui sort très rapidement de ses matchs, qui joue un Zverev.
Que ça fait un gros quart donc pour Djoko et potentiellement une grosse demi contre eux, on peut dire, soit Tim, soit Del
Del
Potro.
Potro, ouais. S'il joue Del Potro, je pense que
Ça va être
waouh,
énorme.
c'est bah Del Potro avait pas le de match à Rome quoi. Il en a eu deux d'ailleurs. Donc pour Djoko, c'est les choses sérieuses commencent dès mercredi pour lui.
Arthur, vous avez un favori, que ce soit chez les hommes ou chez les dames là pour Roland-Garros.
Favori, non, parce que c'est le tableau comme masculin est vraiment vraiment dense. Là, donner un pronostic, c'est très dur, mais bon, un Nadal en finale, ce serait beau.
Ouais, cela va de soi.
Cela va de soi, ce serait dommage qu'il s'arrête avant. Et sur le tableau féminin, je dirais Alep.
Ouais.
Mais Stephens en grand chelem, c'est un autre personnage, quoi. Elle arrive à faire des très gros matchs en grand chelem, donc elle peut gagner aussi. Donc ça va être beau du côté masculin comme du côté féminin.
Moi, chez les filles, j'ai mis une pièce sur Madison Keys. Chez les filles.
Ouais, c'est quoi son plus gros parcours sur un tournoi du grand chelem?
Finale contre Stephens à l'US Open, il y a 2 ans. Elle perd. Voilà, Stephens, elle était plus forte ce jour-là. Mais Madison Keys, ouais. Je la vois bien samedi soulever la coupe.
D'accord. Ah bah, moi, je voyais plutôt une Simona Halep, sécurité.
Alep est maudite quand même aussi en grand chelem. Elle en a un, mais elle est maudite en grand chelem, Alep.
En tout cas, elle mène dans son match là de 8e de finale, 2-0 contre Swiatek. On peut dire aussi en live que Zverev mène 2-7 à 1 contre Fognini.
Exactement.
Et que mon fils mène contre Tim. Non, c'est une blague. Fait sortir avec quelques minutes.
Il s'est fait sortir la seule Française qui a gagné aujourd'hui, c'est Mladenovic. Elle gagne contre Svitolina. On sait tous que Mladenovic est avec Dominic Thiem et Svitolina est avec Gaël Monfils en couple, bien sûr. Et donc les deux étaient au bord du court et Mladenovic a gagné contre Svitolina.
D'accord.
Nous consoler.
Match de supportrice, d'accord.
Voilà, match de supportrice, on va dire ça comme ça.
Bien, merci Aliou pour ce débriefing très complet. Et donc, les finales auront lieu ce week-end.
Samedi et dimanche.
Prochaine émission, nouveau. Il sera temps de faire le bilan de tous vos pronostics, messieurs. On vous enregistre. Écoutez, la parole maintenant est au BMX avec Julien Sastre, responsable des équipes de France de BMX, et puis Arthur Pilar qui est un coureur et qui va nous expliquer ce qui lui est arrivé, puisque tu peux d'ores et déjà me dire que tu es forfait pour les 5e et 6e manches de Coupe du Monde de BMX qui auront lieu ce week-end, samedi 8 juin, dimanche 9 juin au Vélodrome de Saint-Quentin. Donc la billetterie est ouverte, n'hésitez pas à commander vos places. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Arthur, d'abord comment tu es arrivé dans le monde du BMX et donc voilà ton parcours jusqu'à cette probable chute qui aujourd'hui ne te permet pas de concourir pour le week-end prochain.
Donc moi, j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans, enfin le BMX à l'âge de 6 ans. J'ai toujours fait du vélo dans ma jeunesse. Puis un jour, j'ai rencontré une piste de BMX et ça m'a plu direct. Donc voilà, de fil en aiguille, mon papa m'a inscrit, j'ai fait première course, premier titre. Ensuite, je suis monté en catégorie junior où j'ai eu quelques résultats. Ensuite, catégorie élite, ça a été très dur les premières années. J'ai réussi à me faire un petit nom dans la catégorie française. Chez les Français. J'ai intégré l'équipe de France l'année dernière. Et j'ai fait vice-champion de France l'année dernière aussi. Et cette année, à la quatrième manche de la Coupe du Monde, à Papendal en Hollande, je me suis cassé les deux poignets et les deux coudes. Donc un peu embêtant pour faire du vélo.
Alors comment ça s'est passé? C'était sur la rampe de lancement
Non, c'était en troisième ligne droite. Je maîtrisais la course, j'étais troisième, j'étais en phase de me qualifier. Et le premier pilote, celui qui menait la course, fait une erreur, tombe juste devant moi et impossible à éviter, je lui rentre dedans.
On est à quelle vitesse à ce moment-là?
Là, on devait être aux alentours de 40 km/h, je pense.
Et quand vous dévalez la pente, là, par contre, vous êtes...
Voilà.
Approchez les 100 km/h, non ?
Non.
Pas les 100, mais c'est un petit peu plus rapide. Ouais, on est aux entre 60 et 70 km/h.
Ouais.
Donc forcément...
C'est une grande pente...
C'est un départ à 8 mètres de haut.
Ouais.
Et en gros, pour vous donner une petite idée, en à peu près 2 secondes, les pilotes passent de l'arrêt. C'est une course avec 8 pilotes de front, donc ils partent derrière une grille de départ. Donc, il passe de 0 à 60 km/h, 65 km/h en moins de 2 secondes. Donc, ça fait une belle accélération qui pourrait être comparable peut-être à une belle voiture de sport.
Ouais. Ou alors à des montagnes russes.
Un peu. Mais malheureusement, Arthur, oui, il n'a pas eu de chance sur le week-end à Papendal. Il y a deux manches il y a deux compétitions par week-end, en fait. Une manche le samedi, une manche le dimanche. Le samedi, il avait réussi à accéder à la finale, donc ce qu'on appelle nous le c'est les 8 derniers pilotes, donc une finale à 8. Et donc il avait réussi à rentrer cette finale-là le samedi, et le dimanche il assurait en fait, hein, ce qu'il vous dit là, il faut être dans les 4 premiers à chaque fois pour se qualifier pour le tour d'après, donc depuis les 8e de finale, quart de finale, demi, etc. Et donc là il était en train d'assurer justement, et c'est le pilote devant lui qui chute, et comme les pilotes sont très proches les uns des autres, ben en fait du coup il a pas pu faire autrement que de lui rentrer dedans, et malheureusement il y a une bosse qui est venue aussi à sa rencontre. Et voilà.
Vous avez quel âge, Arthur?
J'ai 23 ans.
Ouais. Donc, effectivement, vous représentez, on vous considère encore aujourd'hui comme un grand espoir du BMX français, ou alors là, on est dans l'âge classique pour des coureurs?
On est à la fois dans les deux, je pense. Parce qu'à la fois, 23 ans, c'est jeune pour une carrière de BMXer qui peut aller jusqu'à une trentaine d'années. Et en même temps, il commence à rentrer dans, entre guillemets, la force dans l'âge où les pilotes s'expriment le plus fort. C'est entre 23 et, on va dire, en règle générale, 27 ans. La moyenne d'âge aux Jeux Olympiques, par exemple, elle est autour de 24 ans. Mais Arthur fait partie des pilotes qui ont éclaté sur le tard et qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle, nous, de notre programme Relève. Donc, et qui est vraiment aux portes du programme olympique. Et puis moi, ça me tenait à cœur de l'emmener avec vous aujourd'hui, parce qu'il fait partie de la génération montante de la discipline, et que même s'il est blessé, il fait partie aussi de l'équipe, et voilà, l'équipe est là aussi dans les moments les plus difficiles.
Alors comment vont se dérouler ces manches-là au Vélodrome, le Vélodrome qui accueille donc une fois par an une étape de la Coupe du Monde, donc ce sont deux manches qui se déroulent sur deux jours, et on a bien souvent des Français qui sont soit placés, soit titrés. Est-ce que c'est toujours le cas, Julien Sastre?
Oui, tout à fait. On fait office de favori, hein, puisqu'on est à la maison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est une des nations phares de la discipline. On est première nation mondiale depuis maintenant, alors chez les garçons, depuis maintenant 3 ans. 3 années consécutives, avec notamment l'année dernière, en 2018, un titre, enfin un doublé même, parce qu'il y a le titre de Sylvain André au championnat du monde à Bakou au mois de juin, suivi de très près par Joris Daudet. Ça s'est joué à quelques millièmes de seconde. Donc voilà, la nation favorite chez les hommes. Et on n'est pas en reste chez les féminines, même si ces dernières années ont été un petit peu plus, un peu plus délicates pour les filles. Là où on a un groupe très dense chez les garçons, chez les filles, ça tient à quelques individualités, comme par exemple Manon Valentino, qui a gagné la première Coupe du Monde, l'ouverture de la saison Coupe du Monde cette année, donc sur qui on compte évidemment. Ou Axelle Etienne, qui elle va faire son retour à la compétition là, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la compétition de niveau mondial. Elle a fait une saison blanche l'an dernier pour raison de blessure également, malheureusement. Mais ça fait partie également de la génération montante qui arrive et qui sort de junior titré il y a 2 ans maintenant, 2 ans, presque 3 ans, avec un titre de championne du monde, et qui a fait sa première finale mondiale en championnat du monde chez les élites, sa première année élite, la deuxième année blessée, et puis comme je vous ai dit, pour sa 3e année d'élite, elle reprend la compétition au niveau mondial ce week-end.
Le Vélodrome est-il devenu un outil primordial aujourd'hui dans la préparation de courses de coureurs de BMX? Est-ce que le Vélodrome est assez récent, Et sa piste qui a été d'ailleurs modifiée, je crois, il y a quelques temps. Ça a permis d'élever le niveau général des équipes de France de BMX.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, cette infrastructure sportive, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures comme celle-ci en France, c'est-à-dire des pistes de BMX au format olympique avec un départ à 8 mètres de haut. En France, il doit y en avoir moins de 5 à la louche. L'infrastructure est quand même très importante. Et sur 50 ans en Yvelines, c'est à la fois le centre d'entraînement donc du pôle olympique. Donc on va y retrouver, plus de la moitié, presque les trois quarts des sportifs qui composent les équipes de France. Et après, c'est aussi le lieu de regroupement, de stage. Donc oui, forcément, c'est un peu notre maison.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander justement. Ça joue en votre faveur de jouer à la maison, justement, de jouer dans ce vélodrome.
Bah, tout à fait. Est-ce que les pilotes s'entraînent sur cette piste-là, la connaissent par cœur.
Ouais, c'est ça.
Et ils s'entraînent toute l'année. Alors au même titre que quand on va à Manchester, bah, c'est le même cas pour les Anglais. Quand on va en Hollande à Papendal, c'est le même cas pour les Hollandais. Enfin voilà, c'est un peu le cas pour toutes les nations qui accueillent des manches de Coupe du Monde. La Fédé et l'agglomération de Saint-Quentin et le Vélodrome se sont bougés pour qu'on puisse organiser. C'est la deuxième année consécutive qu'ils organisent une manche de Coupe du Monde. Donc on les remercie énormément parce que oui, effectivement, dans la phase où on est, qui est la qualif olympique, la qualif pour les Jeux de Tokyo 2020, c'est très important de pouvoir marquer des points le plus possible. Et forcément, si on a une manche à la maison, on est favori.
Alors justement, tu comptais sûrement en parler, Gilles. Bon, je vais peut-être te devancer un petit peu. Comment ça se déroule un championnat du monde en BMX ?
Alors, ça se déroule un peu, j'ai envie de vous dire, à la manière dont vont se dérouler les courses là ce week-end. À ceci près que, alors, il faut bien faire la différence entre deux choses. La première qui est le circuit Coupe du Monde. Donc là, c'est plusieurs étapes durant l'année. Il y a cinq étapes un peu partout dans le monde. Donc, on a fait la première au mois d'avril à Manchester, la deuxième au mois de mai à Papendal. Là, c'est la troisième étape de Coupe du Monde. Et il y a deux manches par week-end. Donc, en fait, c'est la, si j'ai bien compté, la cinquième et sixième manche de la Coupe du Monde ce week-end. On aura en septembre les USA et l'Argentine. Donc ça donne lieu à un classement général.
Donc c'est des points en fait.
Voilà, c'est des points qu'on accumule, que les pilotes accumulent au long de l'année. Et il y a le championnat du monde qui là est une course sur une journée et donc là qui donne lieu au titre de champion du monde, au maillot, arc-en-ciel, enfin voilà.
D'accord.
Et qui est, je dirais, le titre officiel. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais Bakou 2018 avec André champion du monde et Dodé vice-champion du monde. Donc là on parle vraiment de titre officiel, même si le classement Coupe du Monde c'est quelque chose de très significatif pour nous parce qu'il faut être performant dans la durée.
Aliou, t'avais une question.
Combien de joueurs par équipe ?
Il n'y a pas de... alors, on parle de pilote.
Ouais.
Pas de souci. Ouais. Mais il n'y a pas forcément de limite au nombre de pilotes par équipe sur un week-end de Coupe du Monde. Par contre, il y a des quotas quand on va parler de championnat du monde, des quotas de qualif. Donc, il y a un classement de la France, il y a un classement des nations. Et suivant le rang de la France dans le classement des nations, enfin, ou le rang du pays, on peut amener plus ou moins de pilotes. En général, au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, la France a les quotas maximum chez les hommes et se rapproche des quotas maximaux chez les filles. C'est pareil, hein, je parle des Jeux parce qu'en fait, c'est le même système pour les Jeux. Les qualifs, ça marche exactement pareil. Donc, pour vous donner l'exemple, pour le moment, au classement olympique des nations, la France, chez les garçons, est première. On se tire la bourre avec les Hollandais, là, l'équipe avec qui on bataille. Et on a fait un petit trou déjà par rapport au troisième que sont de mémoire les USA.
Il semble que c'est les US, ouais.
Et chez les filles, pour l'instant, on est troisième. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, si on devait faire la sélection olympique maintenant, il y aurait trois garçons, c'est-à-dire le quota max, trois places chez les garçons aux Jeux de Tokyo, et il y en aurait deux sur trois chez les filles.
Donc c'est qui les meilleures nations en fait s'il y avait un top 5 à faire, les meilleures nations.
S'il y avait un top 5, alors si je prends le classement tel qu'il est là aujourd'hui, il y a la France, on est premier, les Hollandais qui sont deuxième, les USA troisième, il y a les Suisses qui commencent à être très bons également. Et puis après, il y a toujours aussi l'Australie qui a de très bons pilotes.
Et on peut parler d'un sport dangereux ou pas ? C'est cette vision un peu que j'ai du BMX. Peut-être que c'est une vision tronquée, mais...
Alors, je ne parlerai pas de sport dangereux. Je parlerai de... Enfin, voilà, comme dans n'importe quel sport où il y a de la vitesse, c'est un sport où il faut gérer le risque. C'est un sport où il y a de l'engagement et il y a 8 pilotes de front qui roulent sur la piste en même temps avec des vitesses, comme on disait tout à l'heure, à 60-65 km/h. Donc forcément, l'exemple d'Arthur aujourd'hui est pas forcément le meilleur parce que il est blessé là, mais la blessure fait partie du jeu. Ça arrive pas non plus si fréquemment que ça. Les pilotes, on va dire qu'ils savent gérer ce risque-là à haut niveau. Mais maintenant, oui, c'est vrai, il faut intégrer cette donnée-là. Ça fait partie, nous, intégrante de l'entraînement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dangereux. Il y a un risque et il faut savoir le gérer et prendre les bonnes décisions au bon moment, ce qui s'apprend, tout simplement.
On a eu la piste de BMX qui s'est construite il y a quelques années donc au Vélodrome de Saint-Quentin. Est-ce que depuis, au niveau du département ou alors au niveau de la région, cet outil a permis de susciter de nouvelles vocations? Est-ce qu'on a des jeunes là qui sont venus toquer à la porte pour dire « Ah bah ouais, j'ai vu la piste là sur le bord de la route, j'aimerais bien faire un essai » ou alors est-ce que vous développez des liens particuliers avec les autres associations sportives locales?
C'est plutôt le deuxième point, c'est les assos locales avec des clubs, avec le comité d'Île-de-France aussi qui viennent, qui ont des créneaux réguliers et des initiations également. Bien sûr, il y a des écoles aussi qui viennent beaucoup. Donc il y a des actions de promo avec les jeunes. Je pense que ça suscite des vocations et notamment des inscriptions dans les clubs locaux. Il y a le club de, par exemple, pour parler des clubs très proches, il y a le club de voisins, le Bretonneux qui est à côté, les Clés-sous-Bois, donc qui ont accès aussi à cette infrastructure-là. Donc du coup, par exemple, Arthur pourrait vous en parler parce qu'il entraîne aussi, enfin il a quelques heures d'entraînement sur le club des Clés à côté. Donc du coup, on baigne. Enfin, je pense que les jeunes baignent dans cette atmosphère-là et dans l'atmosphère du haut niveau quelque part. Même quand ils sont tout jeunes, ils voient nos pilotes aussi s'entraîner au quotidien. Enfin, ils se côtoient. Donc oui, forcément. Alors l'installation est quand même très récente. Donc de là à dire qu'il y a un jeune qui a vu l'installation et qui aujourd'hui fait du haut niveau, il va falloir attendre un petit peu encore. Mais oui, en tout cas, il y a du lien entre les deux.
Ouais. Ouais, ça fait partie de vos missions, Arthur, le fait qu'on vous demande de valoriser des synergies entre la Fédération française de cyclisme et puis des clubs aux alentours. Quelle est votre activité au club des Clés?
Non, moi en fait j'étais salarié pendant 3 ans au club de Saint-Brieuc en Bretagne, et quand je suis arrivé ici en novembre, je voulais pas venir ici en faisant que du vélo. J'aime en fait entraîner les jeunes. Du coup, j'avais envie de garder un peu cette approche avec les jeunes. Du coup, le club des Clés-sous-Bois m'a proposé de faire quelques heures là-bas pendant la semaine. Ce qui me permet aussi de changer d'atmosphère, pas toujours être au vélodrome. Changer, voir d'autres gens, parler avec d'autres gens et surtout apprendre ce sport aux plus jeunes.
Donc ça vous plairait plus tard d'être coach?
Oui, ça me plairait beaucoup. C'est pour l'instant ce qui est parti, ce qui est bien parti pour mon avenir en tout cas.
Donc dans 10 ans, vous aurez la place de Julien Sastre ici même.
Je le souhaite.
Julien Sastre, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du BMX en France?
On va dire que les meilleurs pilotes arrivent à en vivre. Alors soit par le biais de leurs sponsors, soit par le biais de leur club, soit par le biais aussi des aides qu'ils peuvent recevoir de la fédération. Mais aujourd'hui, les pilotes français qui en vivent, ils se comptent sur les doigts de la main, malheureusement. Et pour vraiment gagner sa vie là-dedans, je dirais que ce qui a fait, enfin, il y a un pilote par exemple qui l'a fait chez nous, c'est Joris Daudet. Il vit aux États-Unis parce qu'il y a un championnat américain pro là-bas. Il y a forcément un peu plus de sponsors, un peu plus d'argent. Donc là, oui, quand on arrive à, comme Joris, aller vivre là-bas, gagner là-bas des courses, donc là, oui, on en vit plutôt bien. Par contre, voilà, ça arrive à très peu de pilotes et très peu de personnes.
Et comment il a fait, lui ? Il s'est dit, je vais aller là-bas et tenter ma chance là-bas, ou est-ce qu'on l'a repéré ici en France et on lui a demandé de venir aux États-Unis ?
Il a été formé en France. En fait, il a fait toute sa formation en France au travers les clubs dans lesquels il a pu être licencié, notamment là, par exemple, le Stade Bordelais, l'équipe de France. Enfin voilà, il a fait toutes les compétitions françaises, européennes, et puis aussi championnat du monde, etc. avec l'équipe. Et puis une fois qu'il a eu tout gagné du côté de l'Europe, il a pris le pari de passer de l'autre côté.
Il est parti de lui-même.
Voilà, c'est ça, ouais. Et de s'installer là-bas avec sa femme. Maintenant, il est papa d'ailleurs depuis le mois de février. Donc pour lui, tout se passe très bien. Et puis voilà, on lui souhaite. Enfin, moi, je lui souhaite que sa carrière soit encore très longue.
Et on lui souhaite évidemment une médaille olympique, mais on y vient tout à l'heure.
Tout à fait.
quand on fait partie du groupe France BMX, comment est-ce qu'on s'entraîne ? On est disponible à plein temps au vélodrome, ou alors est-ce qu'on est obligé de cumuler une activité professionnelle à côté pour avoir des sous ? La fédération leur donne un cachet ? Comment on fait ?
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différents profils de pilotes. Il y en a déjà qui sont encore en études et qui sont encore étudiants, donc qui ont ce double projet-là, et d'autres qui sont déjà dans le monde professionnel ou qui ont des emplois aidés. C'est le cas de certains pilotes. Il y a quatre pilotes là dans l'équipe, Sylvain André, Jérémy Rancurel, Romain Mailleux, Axel Etienne, qui sont ce qu'on appelle des sportifs de haut niveau de la défense, c'est-à-dire qui sont employés par l'armée pour, certes pour représenter l'armée, mais qui pratiquement s'entraînent à plein temps. Voilà, ils sont sollicités par l'armée sur des actions très ponctuelles de promotion. C'est un peu le cas, comme vous avez par exemple en ski de fond avec les chasseurs alpins, etc. Voilà, là, il y a le même dispositif. C'est un partenariat très précieux qui est celui avec l'armée. Ça permet aux sportifs d'avoir de quoi manger à la fin du mois, d'avoir de l'argent et de quoi manger à la fin du mois. Donc c'est une aide extrêmement précieuse. Et puis après, bien sûr, il y a les aides aussi de la fédération qui sont dédiées aux sportifs de l'équipe de France.
Et lorsque le gouvernement dit on va mettre fin au contrat aidé, on va mettre fin au régime des conseillers techniques sportifs, en gros, on va vous donner moins de moyens et puis vous devez faire plus. Est-ce que c'est quelque chose de viable pour le BMX français ?
Alors si je fais le raccourci, bien sûr que non, parce qu'on n'est pas un sport comme par exemple la route, où il y a des pros qui vivent très bien de leur sport. Je pense que ce que je dis là, c'est le cas de certainement 90% des fédés en France, qui vivent grâce aux aides de l'État, aux aides que ce soit financières, humaines, avec les cadres d'État. Qui sont placés auprès des fédés ou matériels, peu importe. Donc nous, on ne fait pas exception à cette règle. Le BMX, ça reste une petite discipline entre guillemets, qui est médiatisée quand il y a un événement comme celui-ci par exemple, ou surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Maintenant, la fédé de cyclisme, je vous dis, hormis la Ligue Pro, que ce soit la piste, que ce soit l'activité amateur, route, BMX, VTT, ça reste très difficile pour les pilotes et les équipes de France de se passer de ce dispositif de l'État.
Mmh. Un dispositif qui est là notamment pour générer donc des performances et notamment des médailles olympiques. Là, on est à plus d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Quand on est responsable des équipes de France de BMX, est-ce qu'on pense là à l'heure actuelle à la préparation de cette compétition ? Comment on voit les choses à ce moment-là ?
Oui, forcément, on y pense parce que ça reste l'objectif de l'équipe de France, de ramener une médaille des Jeux Olympiques. Maintenant, personnellement, puis je pense que c'est le cas du groupe aussi, on prend les étapes les unes après les autres. Il y a tout un tas d'étapes qu'on a construit ensemble, un chemin qu'on a construit ensemble avec les sportifs, avec les staffs, qui nous amène aux performances qu'on fait aujourd'hui et que les pilotes réalisent aujourd'hui. Donc oui, forcément, c'est l'objectif, mais on a quand même quelques étapes avant, notamment celle de la qualif qu'on est en train de mener en ce moment.
Vous avez des attentes particulières en termes de résultats pour,
pour ce week-end. Donc on le rappelle, hein, 8 et 9 juin, 5e et 6e manche de la Coupe du Monde de BMX au Vélodrome avec donc les équipes de France. Donc que ce soit chez les féminines ou chez l'équipe masculine, quels sont vos objectifs en termes de résultats?
Bah, les objectifs, ils sont, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois qu'on se pointe sur une compétition, c'est de gagner, forcément, chez les garçons. La saison a commencé très fort chez les garçons avec un triplé sur la première manche de Coupe du Monde à Manchester. Ils ont fait 1-2-3, Joris qui gagne, Jérémy Rancurel 2, Sylvain 3. Il y a eu des podiums par la suite après sur les manches en Hollande et tout, donc forcément ici à la maison, on attend une victoire, oui, forcément. Et puis bah, chez les filles, que ce soit victoire ou podium, peu importe, mais oui, voilà, forcément les objectifs, c'est la gagne ou le podium.
Vous avez droit à un quota de combien de pilotes là pour les JO?
Comme je vous disais tout à l'heure, chez les garçons à l'heure actuelle, 3, et chez les filles 2.
D'accord. Eh bien, Arthur Pilar, on souhaite un bon rétablissement pour que vous soyez éventuellement dans cette liste.
Merci.
Eh bien, l'heure sportive s'achève, messieurs. En tout cas, merci d'avoir été présents. Julien Sastre,
merci à vous.
Responsable des équipes merci de France vous, de BMX. Ouais. Arthur Pilar, pilote en convalescence. On a d'ailleurs une date de retour prévue pour vous ou pas
sur les... Retour à la compétition, ouais. En septembre.
D'accord.
Ce sera pour les manches de Coupe du Monde du mois de septembre.
Eh bien, écoutez, on sera là pour vous soutenir. Merci Aliou. Donc, on se retrouve pour la prochaine émission le débrief de Roland-Garros. Merci Julien en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission Parlons Sport, 17h-18h. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.